Je vais commencer en vous donnant le bilan du jour au niveau de la COVID-19. 7 nouveaux décès au cours des 24 dernières heures. On sait qu'hier, il y avait aucun décès. Ben aujourd'hui, il y en a 7. C'est quand même pas beaucoup. Là. Rappelez-vous qu'il y avait des journées à au-dessus de 100. Là. Au total, depuis le début de la crise, on est rendu à 5424 victimes au Québec. Pour les cas confirmés, seulement 49. Et ça, c'est très, très, très bas. Ça fait au moins 3 mois qu'on n'a pas vu un chiffre aussi bas. On est maintenant à 54 884 personnes qui l'ont eu. Mais l'écrasante majorité de ceux-là, évidemment, ne l'ont plus. Les hospitalisations continuent à baisser aussi. On est à 515 maintenant. On était à pas loin de 2000 au pic. Là, on est à moins 5 aujourd'hui. Aux soins intensifs aussi, ça diminue juste de 1, mais on est dans le bon sens. Il en reste 56. Rappelez-vous que ça aussi, il y en avait près de 200. Pour ce qui est de la capitale nationale, on a 4 nouveaux cas puis 2 nouveaux décès. Donc, 4 cas, c'est très peu. 2 décès, malheureusement, 2 des 7 là, sont dans des CHSLD de notre région. À Chaudière-Appalaches, il n'y a pas de nouveaux cas, pas de nouveaux décès. Écoutez, ça ne bouge pas de Chaudière-Appalaches depuis des semaines. Juste pour vous donner une idée, là, il y a eu 514 personnes, ça arrive sud de Québec, qui ont eu la COVID en quelque part là, pendant toute la crise. Il en reste 12 au moment où on se parle qui l'ont encore. Le reste ont développé là, leurs anticorps. Il y en a 8 qui sont décédés et il y en a 496 qui ont guéri. Pour parler maintenant des coûts de cette crise-là, on va aller joindre à l'instant celui qui est président du Conseil du Trésor, mais surtout d'abord et avant tout député de la circonscription de Québec, Jean-Yves Duclos, bonjour!
Bonjour Éric et bonjour à tous ceux qui nous écoutent.
Monsieur Duclos, on parle aujourd'hui parce qu'on veut parler du bilan financier, de combien ça va coûter cette crise-là, parce que hier vous avez fait une espèce de mise à jour pour un peu nous donner l'heure juste. Avec quel chiffre vous avez sorti hier, vous avez rendu public là?
Ben hier, on me questionnait sur le coût de la prestation canadienne d'urgence, là, le 500 $ par semaine, que je dirais à peu près là, pas loin de 200 000 personnes dans la grande région de Québec, Chaudière-Appalaches, qui ont reçu au moins une fois au cours des dernières semaines. Donc, on parlait du coût. Donc, le coût là, estimé pour l'instant, c'est autour de 53 milliards pour ce programme. On parlait aussi d'autres coûts, là, mais c'est en gros ce qu'on m'a demandé de mettre à jour hier.
C'est 53 milliards. Donc, la PCU là, va avoir coûté où on est rendu à?
On est rendu à environ 53 milliards. Pour à peu près 8 millions de Canadiens, donc à peu près là, 150 000 à 200 000 dans la très grande région de Québec.
Puis pour l'ensemble du programme jusqu'à la fin, là, parce qu'on sait que ça se termine, il reste encore 8 semaines, là, ça va être combien? Est-ce que vous savez combien l'enveloppe totale va être?
Bon, 2 choses importantes à suivre. La première, c'est que la prestation était particulièrement importante au début, là, au mois de mars, quand à peu près tout le monde était en confinement. La deuxième chose, c'est que ça a baissé beaucoup au cours des dernières semaines, parce que avec le déconfinement qu'on a connu, entre autres, dans la région de Québec, il y a beaucoup de gens qui peuvent maintenant retourner au travail de manière sécuritaire, tout en suivant les directives de la santé publique. Puis, on s'attend à ce que ça continue au cours des prochaines semaines. Il y a de moins en moins de gens qui vont y avoir recours, de plus en plus de gens qui vont retourner au travail. Ouais. Sans aide gouvernementale, puis de certains qui vont profiter de la subvention salariale de 75%, qui profite à peu près 100 000 travailleurs dans la grande région de Québec.
OK. Avez-vous sorti un chiffre de combien qu'elle va coûter la subvention salariale?
C'est une très bonne question. Je pense que c'est autour de 15 milliards jusqu'à maintenant. Sous toute réserve parce que j'ai pas le chiffre exact. Okay. C'est à peu près 2,7 millions de travailleurs dans l'ensemble du pays, à peu près 100 000 dans la grande région de Québec, Chaudière-Appalaches. C'est de plus en plus important cette subvention-là parce que c'est une subvention qui permet aux gens de retourner au travail, même s'ils sont pas parfaitement productif dès le début. Parce qu'on sait là, qu'il y a un ajustement qui doit se faire au départ quand on a quitté son emploi durant un certain temps. L'entreprise n'est peut-être pas à pleine capacité, mais l'entreprise a envie de réengager quand même ses travailleurs. Et ça se fait parce que le fédéral subventionne une bonne partie des salaires.
Donc, au total, là, parce que est-ce que c'est au-dessus ou en dessous de ce que vous aviez prévu au départ?
La subvention, c'est en dessous pas mal parce que ça a commencé lentement pour deux raisons. La première, c'est que les entreprises connaissaient pas le programme. C'est un programme qui avait jamais été mis en place par le fédéral dans l'histoire du pays. Puis la deuxième chose, c'est que les entreprises étaient aussi inquiètes par rapport à leur capacité d'utiliser ces travailleurs. Il y avait beaucoup d'inquiétudes par rapport au futur des entreprises au tout début de la pandémie. Fait que là, cette inquiétude-là, elle est moins forte maintenant parce que les gens savent plus connaissent plus les conditions économiques et sanitaires. Puis le programme fédéral, il est aussi beaucoup mieux connu maintenant.
Là, est-ce que l'urgence est terminée? Parce que beaucoup de gens, c'est ça qu'ils nous disent. Tu sais, il y en a plus d'urgence. Là, on a recommencé à travailler. Le monde est redevenu normal. On voit les chiffres, là, tout descend. Là, il y a pratiquement plus de cas. Là, ça arrive sud. Il reste 12 personnes sur toute la région de Chaudière-Appalaches. À Québec, si je prends le même ratio, il doit en rester une cinquantaine. Il y a plus de mouvement. Là, hier, on avait zéro décès au Québec. Est-ce que l'urgence est terminée? Est-ce que les gens vont pouvoir tranquillement, là, ceux qui n'ont pas d'emploi, parce qu'il y en a qui risquent de perdre leur job quand même, là, vont pouvoir aller sur le chômage, puis la vie normale va reprendre son cours pour les autres?
Ben, je dirais, il y a urgence, il y a circonstance, il y a prudence. L'urgence sanitaire est évidemment, effectivement, comme vous l'avez dit, Eric, moins importante maintenant. Mais il faut bien être conscient aussi des circonstances de beaucoup de travailleurs et d'entreprises dans la grande région de Québec. Il y a encore, là, il y a quelques semaines, le 5 juin, c'est un statistique Canada qui a sorti un rapport, là. Il y avait en mai encore un sous-emploi d'à peu près 30 % de la main-d'œuvre au pays, incluant à Québec. 30 % de la main-d'œuvre sous-utilisée, sous-employée. Ça, c'est parce que non seulement des gens qui ont perdu leur job, mais des gens qui ont perdu une bonne partie de leurs heures de travail, ou des gens qui ont perdu leur job puis qui n'en cherchent pas ou qui n'en cherchent pas en mai parce qu'ils ne pensaient pas pouvoir en trouver.
Ou des gens qui ont perdu le job puis que quand le boss les a rappelés, ils ont dit « ben je reçois de la PCU puis je vais attendre encore un mois ou deux ».
Ça, je reviens dans quelques instants, Éric. Mais aussi une question de prudence, parce qu'il faut être prudent, là. Ça va bien, au point de vue sanitaire, on est très content. Économiquement, les choses reprennent. Il y a beaucoup d'emplois perdus au Québec qui ont été regagnés en mai, selon Statistique Canada. Donc, il faut être prudent. Mais sur la question des incitations, là, faut être très clair. Nous, on a déposé il y a deux semaines un projet de loi à la Chambre des communes pour renforcer les capacités de lutter contre la fraude qui est modeste, mais qui est présente quand même, et renforcer les incitations pour les personnes qui peuvent retourner occuper un travail de manière raisonnable, renforcer l'incitation à le faire. Ceci étant dit, il faut quand même convenir qu'à Québec, il y a encore beaucoup de monde qui, malgré tous les efforts qu'ils peuvent faire, ne trouvent pas d'emploi. Et la PCU, la prestation canadienne d'urgence, 500 $ par mois, par semaine, c'est à peu près l'équivalent du salaire minimum, ça. Donc, c'est pas une désincitation qui est universelle, c'est une désincitation qui existe. Il y a le directeur parlementaire du budget estime à peu près 10% là, de la population de travailleurs qui ne retournent pas au travail alors qu'ils devraient le faire, étant donné les conditions économiques. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui, même s'ils voulaient le faire, et même s'ils veulent le faire, ne peuvent pas le faire.
Vous avez parlé de la fraude. Je veux vous entendre un peu là-dessus. C'est quoi le pourcentage de fraudeurs à la PCU? Est-ce que vous avez commencé à avoir des estimés ou vous n'avez pas encore le portrait?
Bon, il y a un petit peu de confusion là-dessus. Il y a, le nombre de gens qui ont reçu un paiement de manière erronée. Dans la très grande majorité des cas, c'était de bonne foi. La plupart de ces gens-là ont déjà remboursé ce paiement. Il y a à peu près 200 000 personnes là, qui ont reçu au tout début de la crise deux paiements parce qu'elles avaient fait une demande à deux endroits différents en comprenant pas comment le système fonctionnait. Ça va très bien. Les gens comprennent maintenant ce qui s'est passé. Ils remboursent leur paiement excédentaire, mais il y a évidemment, comme dans tous les programmes, de la fraude. On estime ça à peu près à 1 à 2 % mais ça, c'est même si c'est juste 1 à 2 % c'est grave quand même. Et l'Agence de revenus du Canada fait ce qu'elle doit faire, c'est-à-dire qu'elle garde toute l'information en temps réel. Elle a beaucoup d'informations, puis elle va poursuivre malheureusement les cas de fraude qui se sont produits pour des dernières semaines.
Mais vous êtes conscient que la probabilité d'aller rechercher cet argent-là est assez mince. Il y en a qui ont transféré ça dans des comptes à l'étranger, les fonctionnaires avec des banques virtuelles, puis il y en a d'autres des assistés sociaux qui sont mis à la PCU alors qu'ils n'avaient pas droit, puis on peut pas saisir l'aide sociale, donc on pourra jamais se faire rembourser. Il y a un pourcentage, un fort pourcentage de la fraude que vous ne verrez jamais la couleur de l'argent, là.
Il y en a. Là-dessus, je parlais justement des dirigeants de banque il n'y a pas longtemps.
Ouais.
Là, créer des comptes Internet artificiels de courte durée pour aller chercher de la fraude, il y en a eu, mais d'après ces gens-là qui connaissent bien leur système bancaire, il n'y en a pas eu beaucoup. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les pourchasser. Ça va être fait quand même. Il y a d'autres fraudes là, que l'Agence de revenus est habituée d'aller retracer. L'Agence de revenus, là, c'est l'agence au pays qui a le plus d'informations sur le plus de monde. Donc, ils ont du personnel qui sont formés pour pour chasser les gens là, qui ont abusé du système.
Monsieur le ministre, s'il y a une, parce que là, on essaie de comprendre le déficit actuel de cette année, là, pour 2020. Là, est-ce qu'on avait eu un estimé au départ de 252 milliards? Là, on nous dit que ça va être plus que ça parce que vous avez prolongé la PCU, fait qu'on s'attend à au-dessus de 300 milliards. Est-ce que c'est dans ces eaux-là? Est-ce que c'est un portrait réaliste si on parle de 300 milliards?
Ben ça monte et ça descend. Là, ça monte parce qu'effectivement il y a des programmes qui sont prolongés comme la PCU parce que c'est nécessaire pour des centaines de milliers de gens. Et ça descend aussi parce que au cours des dernières semaines on a eu des bonnes nouvelles économiques, en particulier du Québec. La province là, a retrouvé en mai 30% des emplois qu'elle avait perdus entre février et avril. Ça c'est donc c'est positif non seulement pour le gouvernement fédéral mais aussi pour le gouvernement provincial. Et qu'il y a des effets dans les deux sens. Et dans les prochains jours, là, pour être ici, le 8 juillet exactement, le ministre des Finances, M. Morneau, va fournir un portrait de la situation qui va permettre à tout le monde de mieux comprendre où est-ce qu'on est rendu, puis où est-ce qu'on pourrait se diriger au cours des prochains mois. Mais comme je disais, il y a des coûts, mais il y a aussi des bonnes nouvelles. Une des raisons pour lesquelles on a évité là, jusqu'à maintenant une catastrophe économique et sociale, c'est que le gouvernement central est intervenu rapidement.
Monsieur Duclos, là, on comprend, mettons, c'est 250, 275, 300, 350, ça va être dans ces eaux-là, le milliard, là. On est conscient que s'il y a une deuxième, une troisième vague, on ne pourra pas remettre un autre 300 milliards. Là. Le Canada peut pas indéfiniment, pendant je sais pas combien de vagues qu'on va pouvoir toffer, mais on ne pourra plus avoir la même approche qu'on a eue lors de la première vague. Là. Il va falloir qu'on trouve une nouvelle façon d'affronter le coronavirus.
Ben c'est pour ça qu'il faut être absolument prudent. Là, on a appris, au début, on ne savait pas, mais on a appris qu'est-ce qu'il fallait faire pour être prudent d'un point de vue sanitaire, pour nous protéger, protéger notre santé à nous, la santé des proches, des gens qu'on aime, mais aussi pour protéger la santé de l'économie. On a tous une responsabilité individuelle pour éviter cette deuxième vague. On est tous contents d'aller retrouver en partie nos anciennes habitudes de vie, nos amis qu'on n'a pas vus durant un certain temps, mais il faut être prudent. Parce que c'est vrai pour le fédéral, mais c'est vrai aussi pour les autres gouvernements. Le gouvernement provincial, là, lui aussi, il est à risque si on avait une deuxième vague. Il faut l'éviter absolument. Et ça demande des comportements individuels qui sont responsables.
Mais est-ce qu'on peut dire que la PCU, là, il reste 8 semaines, puis après ça, c'est vraiment terminé, puis on ne reverra plus ce programme-là? C'était vraiment un programme d'urgence quand il y a eu une urgence, puis que c'est vraiment disparu des cartons, là?
C'est ce qu'on espère, puis c'est ce qu'on va voir, là. Au cours des prochaines semaines, en fonction de la situation économique. La situation économique, évidemment, dépend beaucoup de la situation sanitaire. On sait qu'il va y avoir d'autres accompagnements à fournir pour les gens là, qui vont continuer à avoir de la difficulté à se trouver un travail. L'événementiel, les arts et la culture, le transport, une partie de l'industrie touristique, l'hôtellerie. Tout ça, là, on sait que ça va prendre du temps avant de retrouver la force que ces gens-là avaient avant la pandémie. Fait qu'il faut être aussi sensible aux conditions individuelles. Mais d'un point de vue agrégé, d'un point de vue macro, je pense que les choses vont de mieux en mieux, puis on espère que ça va continuer.
Je veux que vous me parliez des subventions aux loyers commerciaux, parce qu'on entend beaucoup parler des petits commerces là, qui se font évincer, qui vont se faire parce qu'ils n'ont pas payé leur loyer, puis il y a des propriétaires immobiliers qui voudraient soit avoir le local ou soit avoir le paiement. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Parce que je pense que c'est long avant d'obtenir la subvention des loyers commerciaux, puis là, il y a des propriétaires qui sont impatients puis qui sont en train de vouloir mettre les commerçants dehors, là.
Bon, c'était très important, Éric, que vous mentionniez ça. Il y a deux choses au sujet des loyers commerciaux et en particulier des loyers payés par les petites entreprises. La première chose, c'est ce programme là, qui a été mis en place par le fédéral et les provinces, parce que le loyer, le bail, les ententes de location entre les propriétaires et les locataires, ça relève essentiellement de juridictions provinciales. Donc, la première chose, c'est ce programme développé conjointement et financé en partie par le fédéral pour aider les petits commerces à payer leur loyer. La deuxième chose, c'est l'éviction. Et ça, je suis content de mentionner qu'au Québec, on a fait comme dans d'autres provinces dernièrement. Au Québec, on a passé un règlement pour interdire l'éviction des petits locataires au cours des prochaines semaines. Ça aide à encourager les propriétaires à utiliser l'argent du provincial et du fédéral pour réduire le coût du loyer pour les petits commerçants, parce que les propriétaires, ils comprennent pas mal tous là que s'ils veulent avoir des locataires à long terme, ils ont intérêt à en prendre soin.
Oui. Mais il y a quand même c'était pas dans le projet de loi 61, ça, ces règlements-là, puis ça a pas l'Assemblée nationale les a pas votés avant de partir en vacances, là. Il y avait beaucoup de petits commerçants qui se plaignaient de ça, là.
Ah, ben là, c'est une tête, c'est une subtilité qui m'a échappé. Mais moi, mes dernières nouvelles, le gouvernement du Québec, là, allait de l'avant avec son règlement pour interdire l'éviction des petits commerçants.
Là, monsieur le ministre, je sais que vous avez la réponse, là, mais j'ai des retraités qui me disent quand est-ce que je vais recevoir mon 300$ ou mon 500$. Je pense que c'est au début du mois de juillet. Hein? Il faut qu'ils attendent encore quelques jours. Là.
C'est dans la semaine du 6 juillet. La bonne nouvelle, c'est que c'est un seul versement, pas besoin d'attendre des autres versements. Deux, c'est livré automatiquement, pas besoin de faire une demande de paiement. Puis la troisième chose, c'est que dans 98% des cas, c'est livré directement dans les comptes de banque des aînés.
Vous serez pas surpris que là, je suis en train de lire les commentaires du public là, pendant que vous répondiez. Là, les gens, il y en a beaucoup, monsieur le ministre, là, ça va. Je vais vous en lire quelques-uns pour vous donner une idée. Là. On est en train de voler les fourmis pour acheter le vote des cigales. Ça, on vous reproche beaucoup ça, hein, que vous taxez beaucoup puis vous pelletez du déficit sur le dos des travailleurs futurs pour acheter des votes à court terme. Vous répondez quoi à ces auditeurs-là?
Ben, je trouve ça particulier parce que, écoutez, on a une crise là, extraordinairement profonde, là, une crise qu'on n'a jamais connue dans l'histoire du pays. Et là, il faut continuer à protéger notre tissu économique et social. Là, on a évité au cours des derniers mois une crise, une catastrophe majeure qui nous aurait été très coûteuse, non seulement en termes économiques pour le niveau de vie des individus, la capacité des entreprises à survivre, mais aussi un point de vue social. Les gens, les millions de gens qui avaient perdu leur job se seraient retrouvés sans argent pour payer l'épicerie. Mais aussi, pas juste pour ça, d'un point de vue fiscal, si un gouvernement central qui a la capacité d'intervenir n'intervient pas, on entre dans une dépression. Puis une dépression, c'est des déficits élevés, pas juste temporairement, mais à long terme. Une dépression, c'est une récession qui dure des années. Ça prend des années avant de retrouver un niveau d'emploi substantiel. Il y a des années à vivre difficilement, à la fois économiquement, socialement, mais aussi d'un point de vue fiscal.
Okay. Mais c'est juste que les gens, c'est les travailleurs qui travaillent encore, puis qu'eux autres qui ont continué à travailler, qui ont l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui abusent. Puis on a toujours l'impression que, tu sais, comment ça se fait que ces gens-là essaient pas de se réorienter ailleurs. Moi aussi, si on me disait, je vais te donner ton plein salaire, si tu as le choix de rester chez vous cet été sur le bord d'une piscine, ou si tu as le choix d'aller travailler, peut-être que je ferais comme eux autres. C'est beaucoup ça le discours des travailleurs qui sont déçus des mesures, qui trouvent que vous en faites trop. Habituellement, on reproche au gouvernement de ne pas en faire assez. Dans ce cas-ci, je pense que les principaux critiques que vous avez, M. le ministre, c'est les gens qui vous reprochent d'en donner trop.
Oui, puis c'est important de critiquer les gouvernements, Éric, puis je sais que ça vous arrive aussi.
C'est très rare que ça m'arrive, M. Duclos. J'aime pas ça du tout, faire ça. Surtout
le
vôtre.
Il y a des mauvais gens qui disent que vous critiquez souvent les gouvernements. Mais là, bon, on va le laisser parler, là. Mais c'est important de critiquer les gouvernements parce que c'est par la critique qu'on s'améliore. Moi, ce que je sens dans mon milieu, dans ma circonscription, puis à Québec, là, c'est, je sens qu'on a tous envie de passer à travers cette crise-là ensemble. Dans certains cas, ça va bien. Dans certains cas, ça va bien depuis le début. Il y a quand même beaucoup de monde qui en a arraché dans les dernières semaines. Si on veut sortir fort et unis de cette crise-là, ben, il faut prendre soin les uns des autres aussi.
Dernière question, M. le ministre. L'équilibre budgétaire au Canada, on va-tu voir ça de notre vivant? Ça va dans combien d'années? C'est quoi l'horizon que vous vous donnez maintenant?
Bien, on avait une situation très solide au début. On avait plein d'emplois partout au pays, en particulier dans la
région. Stephen Harper, il vous a donné ça clé en main. Ça allait très bien au Canada, effectivement, M. le ministre.
Ah, écoutez, on aura la chance de parler de M. Harper. Là. Il y a toutes les bonnes choses qu'il aurait pu faire au
niveau
des
fiscal,
années.
Vous ne pouvez pas le plaindre trop. Au niveau des finances publiques, il vous a quand même laissé ça en bon ordre. Il ne vous a pas laissé un déficit astronomique. Là.
Non, M. Harper, écoutez, je ne vais pas le critiquer. Je pense qu'il a travaillé fort comme premier ministre. Puis il a donné tout ce qu'il pouvait. Ceci étant dit, on est rentré en 2015. On était en récession en 2015 quand on a été élu en octobre 2015. Donc, la deuxième récession en 7 ans. Il y avait des besoins importants en matière d'infrastructure. Il y avait la classe moyenne là, qui en arrachait depuis un certain temps. Donc, mais je ne veux pas revenir en 2015. C'est en 2020.
La question, c'est quand est-ce qu'on revient à l'équilibre budgétaire? Là? C'est-tu dans 2 ans, 5 ans, 10 ans? Y a-tu un horizon ou c'est à jamais?
Ben, il va y avoir un horizon, évidemment. Mais pour l'instant, on est encore, évidemment, dans une situation de grande incertitude. On sait que les choses vont bien. On est content. Mais la prudence est de mise. Il faut faire attention. Il faut rien prendre pour acquis. Il faut surtout pas perdre ce qu'on a acquis au cours des dernières semaines. Donc, on fait attention. Puis on
mais on n'a pas d'horizon. Si je veux résumer votre réponse, là, vous avez pas, il y a pas une année. Il y a pas, on voit pas ça dans 3 ans, 5 ans, 10 ans. Il y a pas de date. Là.
Mais la très grande majorité des dépenses qu'on a mises en place au cours des dernières semaines sont des dépenses temporaires. Donc, ça va disparaître dans la... En fait, il y a 87% de l'aide que les gouvernements ont donnée aux familles et aux entreprises qui vient du fédéral. 87%, c'est quand même un appui important du gouvernement central, mais ça, c'est un appui d'urgence et donc un appui temporaire. Puis au cours des prochaines semaines et des prochains mois, on va mieux voir, on va mieux comprendre la situation pour être plus capable d'envisager là, sur quel horizon le déficit va revenir à un niveau plus tolérable à long terme.
On s'en reparlera à ce moment-là. Jean-Yves Duclos, président du Conseil du Trésor, député de Québec, merci de nous avoir jasé.
Merci beaucoup, Éric. Bonne fin de journée.
Au revoir.